Bonsoir. Cérémonie des remises et reprises jeudi dernier à Kinshasa entre l'ancien et le nouveau bureau de la CENI. À cette occasion, le nouveau président de la CENI a indiqué qu'il mettra l'accent sur la restructuration de cette institution. L'abbé Apollinaire Malumalu promet aussi d'élaborer rapidement un calendrier électoral pour fixer les séquences d'organisation de scrutins en fonction des exigences du cycle électoral. Quelle analyse faire de cette déclaration? Que faire pour harmoniser le cycle électoral en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous recevons dans cette émission professeur Tshibangu Kalala. Il est professeur des droits publics à l'Université de Kinshasa. Il est aussi président du parti politique Notre Beau Pays, un parti proche de la majorité présidentielle. Bonsoir, professeur Tshibangu Kalala.
Bonsoir.
Albert Fabrice Pouela, il est député national de l'opposition et leader du parti pour la Renaissance du Congo Récon en sigle. Il est aussi rapporteur du groupe parlementaire UDPS-FAC à l'Assemblée nationale. Bonsoir Albert Fabrice Pouela.
Bonsoir Guy Martin.
Et professeur Félicien Kabamba, il est professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir professeur Félicien Kabamba, il est au téléphone.
Bonsoir.
Robert Baume de Bukavu, la déclaration de l'abbé Apollinaire Malumalu est de très bonnes intentions pour le bon fonctionnement de la nouvelle CENI. Mais à moins d'opérer des miracles, le cycle électoral actuel est difficile, si pas impossible à harmoniser. Toutefois, qu'on établisse un nouveau calendrier électoral pour un nouveau cycle électoral à respecter cette fois-ci scrupuleusement. Prof Ignace Ndala de Kolozé au Katanga, l'abbé Apollinaire Malumalu montre qu'il veut travailler. Mais il doit comprendre que ceux qui l'ont élevé ne vont pas le laisser libre de répondre aux exigences de cette harmonisation du calendrier. Il doit penser à réunir les moyens et jouer sur les temps, des éléments pas en sa faveur auxquels s'ajoute la confiance à reconquérir. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'entrée en fonction de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI, c'est au terme d'une brève cérémonie de remise et reprise organisée jeudi dernier au bureau de cette institution ici à Kinshasa. Le tout précédé d'une plénière au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. À l'occasion, le président de la CENI a indiqué qu'il mettra l'accent sur la restructuration de cette institution. Apollinaire Malumalu promet aussi d'élaborer rapidement un calendrier électoral pour fixer les séquences d'organisation des scrutins en fonction des exigences du cycle électoral. L'abbé Apollinaire Malumalu Malou a aussi évoqué les valeurs fondatrices de l'acte des votes, qu'il énumère ici dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
L'impartialité et l'intégrité. Cette capacité d'agir d'une manière impartiale en évitant de favoriser des intérêts politiques, donc capacité de traiter toutes les parties prenantes sur le même pied d'égalité. L'indépendance. Cette capacité d'accomplir le travail sans être sous l'influence ou le contrôle d'une force extérieure telle que les institutions de la République, l'opposition, les groupes d'intérêt, la communauté internationale. Mais, en contrepartie, développer la transparence, capacité de faire preuve d'ouverture et d'honnêteté dans toutes les relations, excepté dans des situations où l'ouverture peut compromettre le secret de vote et sa sécurité. L'efficacité, l'utilisation sage des fonds affectés aux élections, l'attachement à la qualité du service, le professionnalisme, l'accessibilité.
Professeur Tshibangu Kalala, je rappelle que vous êtes professeur des droits publics à l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi président du parti politique Notre Beau Pays. C'est un parti proche de la majorité présidentielle. Le nouveau président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalu, veut restructurer cette institution et évoque ici certaines valeurs fondatrices de l'acte de vote. Il parle de l'impartialité, de l'intégrité, cette capacité d'agir d'une manière impartiale en évitant de favoriser des intérêts politiques. Et comment vous analysez cette déclaration de l'abbé Apollinaire Malumalu?
Oui, c'est Guy Matin, merci pour m'avoir invité à cette émission. Je salue d'abord mes amis, le professeur Kabamba et honorable Pouila, avec lesquels nous allons animer cette émission ensemble. Maintenant, pour revenir à la déclaration de l'abbé Malumalu, je partage totalement sa manière de voir les choses. J'ai retenu dans sa déclaration deux mots importants. C'est la transparence et l'honnêteté. Il faut y ajouter aussi l'impartialité. C'est cela qui a manqué à peu près au cours des dernières élections législatives de 2011. Eh bien, nous espérons que la prochaine fois sera la bonne. Comme il s'est engagé à présenter un calendrier, nous attendons ce calendrier-là et nous espérons qu'on va organiser les élections provinciales le plus vite possible. Et pour moi, je pense que entre novembre et décembre de cette année, en tout cas au plus tard janvier 2014, il faut absolument qu'on organise les élections provinciales et qu'on mette fin à la situation actuelle qui est absolument inadmissible. Je pense que pour cette émission, nous allons aborder la question concernant la manière de régulariser les cycles électoraux.
C'est la question fondamentale.
C'est la question fondamentale et nous avons des propositions à faire à ce sujet. Donc, je suis totalement d'accord avec Abbé Malmalou dans sa déclaration, dans tout ce qu'il a dit dans sa déclaration.
Professeur, ne peut-on pas considérer ces discours comme étant une simple déclaration d'intention? C'est pas la première fois que nous entendons de tels discours.
Oui, c'est vrai. Mais Abbé Malmalou et son équipe, nous allons tous les juger à l'acte. Les déclarations d'intention, le catalogue de bonne volonté, de dire oui, nous allons faire ceci ou cela, c'est bien beau. Vous avez raison de le souligner, Kimaté. Nous allons être tous très vigilants à l'égard de la CIE, notre peuple. Il faut qu'il y ait un contrôle populaire, il faut que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile se mobilisent, se mettent debout pour surveiller le travail de la CENI, aussi pour appuyer la CENI, mais en même temps pour contrôler son travail, pour qu'on ne retombe pas dans les erreurs du passé.
Albert Fabrice Pouella, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et leader du parti pour la Renaissance du Congo, RECO en sigle. Vous êtes aussi rapporteur du groupe parlementaire UDPS-FAC à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez cette déclaration de l'abbé Apollinaire Malumalu, lui qui exprime ses souhaits de pouvoir développer la transparence dans les opérations de vote?
Merci beaucoup, Monsieur Guimaté. Je salue également le professeur Kabamba ainsi que le professeur Chibangu Kalala, mes co-débatteurs. Monsieur Guimaté, l'un des problèmes de notre pays, c'est la dichotomie entre la parole, entre les discours et l'action. Qui peut aujourd'hui croire à l'impartialité de M. Malumalu? Qui aujourd'hui? Avez-vous constaté que cette remise et reprise a été faite dans l'indifférence totale des Congolais? Vous l'avez remarqué avec moi.
Parce que c'est vous qui l'avez dit. Hein?
Non, mais
avez-vous fait un sondage pour
mais
savoir
que
les gens étaient indifférents
vis-à-vis c'était ressenti comme un non-événement pour la plupart des Congolais. Et ça, et pour cause, je veux vous donner quelques cas, c'est que, premièrement, la loi sur la CENI était votée à l'Assemblée nationale, je l'ai dit à mon corps défendant, c'est le fruit d'un forcing de la majorité à l'Assemblée. Voté dans des
mais termes... vous avez été associé à l'élaboration de cette
oui,
loi.
Oui, nous avions été associés
à l'adoption
savez...
même de la loi.
Non, mais vous savez...
de l'opposition.
Non, mais vous savez comment elle a été faite à la fin. En des termes différents entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je dis, j'ai honte, je suis de l'Assemblée nationale, mais nous avons souvent été loin du bon sens, ne fût-ce que du bon sens.
Nous apprenons qu'il y a eu consensus au sein de l'Assemblée nationale au sujet de cette loi.
Non, pas du tout. Un semblant de consensus. Parce que il avait été, quand bien même ce consensus avait été trouvé, mais dans les faits, c'est vraiment autre chose qui a été et cette loi a été votée dans des termes différents. Je vous dis à vous le dire, quand bien même il y aurait eu consensus, mais lorsqu'il fallait désigner des animateurs pour ces différentes institutions, vous avez suivi pour la société civile, pour une institution qu'on voulait indépendante, mais elle est même devenue plus politique. Comment voulez-vous que l'Église catholique, la société civile, qui devrait se reconnaître en ses représentants, je parle du président par exemple. L'Église catholique ne se reconnaît pas à ses présidents. Imaginez un seul instant, je ne cite personne, que l'Église catholique dise que non, puisque nous ne nous retrouvons pas à cet animateur qui est supposé nous représenter, nous ne participons pas à ces élections.
Il n'a pas dit qu'il représentait l'Église catholique au sein de la CENI. Il a été représenté par une partie des confessions religieuses, pas par l'Église catholique.
Non, mais comment peux-tu, toi, tu viens, même si représenté par une partie, mais vous avez d'abord votre structure de base qui vous représente avant d'être que votre candidature soit endossée par les autres. Alors, là où on voulait justement dépolitiser, je vous ai dit, c'est maintenant la politisation à outrance avec les reniements de M. Malumalu, de sa composante pratiquement et de sa structure première. Et sa désignation procède d'une tricherie. Il ne représente pas. C'est l'Église catholique qui aujourd'hui, j'espère, que vous avez suivi la déclaration de la CENCO et même la convocation de son évêque au niveau de Rome.
S'il faut revenir à la déclaration de l'abbé Apollinaire Malumalu,
ouais.
Il dit qu'il exprime, n'est-ce pas, en fait, il exprime lui les souhaits de pratiquer la transparence dans les opérations de vote.
C'est dit déjà entendu. Mais si vraiment il y avait la transparence dans le vote, mais au moins en 2006, nous aurions eu des élections non contestées. Mais vous savez ce que ces élections nous avaient donné. Aujourd'hui, au fait, il y a ces grands problèmes que nous avons, des crises de confiance. Il faut rétablir la confiance entre la population, le peuple congolais et l'institution qui doit organiser les élections. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. À partir du moment où nous avons quelqu'un qui est à la tête de la CENI après un forcing, comment voulez-vous que les électeurs aient confiance, que le peuple congolais ait confiance à cet organisateur de ces élections? Il y a problème.
Merci.
Alors, lorsqu'il parle de la restructuration, excusez-moi, et vraiment, croit-on sincèrement qu'il bénéficie de cette confiance? Ou même, lorsqu'on va, il dit qu'il va s'attaquer à élaborer, à suivre le cycle électoral. Mais comment est-ce qu'il va organiser des élections, par exemple, au niveau de Rutshuru ou Bunagana de l'autre côté? Il y a un sérieux problème de consensus national qu'il faut d'abord reconquérir. Autrement, ça serait difficile.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. L'abbé Apollinaire Malumalu évoque aussi l'indépendance et la capacité d'accomplir les travaux sans influence d'une force extérieure, notamment les institutions de la République, l'opposition, la communauté internationale. Autant des défis à relever, ça ne risque pas finalement de devenir utopique.
Merci beaucoup Guy Maté. Je voudrais également commencer par saluer mon collègue professeur Tshibang Kalala ainsi que les députés Pouila. Comme le prédécesseur, je crois que là on est en train d'analyser uniquement les discours et il aurait peut-être fallu qu'on analyse les discours par rapport aux actes. Mais comme il est question d'analyser les discours, je crois que les bonnes intentions sont dans ces discours. Ce sont de très bonnes paroles, de très bonnes promesses également, mais aussi des défis à relever. Et là, il faut dire que M. l'abbé Malumalu a commencé par se démarquer de son prédécesseur. Évidemment, il manifeste là l'intention d'aller un peu au-delà. Une structure indépendante, une autre manière de faire les choses qui devra marquer la différence avec l'équipe qui a été conduite par son prédécesseur. Ce qui est vrai, c'est que dans la manière dont les choses ont été concoctées, il est très difficile de parvenir à une indépendance attendue, étant donné que la composition elle-même du bureau est une composition basée sur l'appartenance au parti. Et du coup, l'indépendance peut être probablement avérée par rapport aux structures gouvernementales, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons là le risque de voir les partis s'accaparer, évidemment, des fonctions essentielles au niveau de la CENI. Et ça a toujours été une inquiétude, et il est la question pour M. l'abbé de montrer comment l'indépendance peut être obtenue, même si la répartition du gâteau au niveau du bureau a été faite sur base évidemment d'appartenance politique, même si lui il ne vient pas d'un parti. Mais il y a aussi un autre défi qu'il doit relever, c'est que une bonne partie de l'opinion considère qu'il est trop proche de la mouvance présidentielle, et du coup comme il revient, il faudra qu'il montre évidemment que tout ce qui est dit autour de sa personne n'est pas vrai et qu'il est tout à fait indépendant, qu'il n'a pas de penchant ni à l'endroit de l'opposition, ni à l'endroit du pouvoir. Et je crois que les défis qu'il faut relever, qu'il doit relever, sont énormes. Il est également question de voir là comment il pourra restructurer, parce que c'est peut-être ça aussi l'un des grands défis, comment il pourra restructurer cette CENI pour qu'elle soit, elle ne soit pas atteinte par les influences extérieures et du gouvernement et des partis politiques. Ça, véritablement, nous le regardons là-dessus.
Oui, vous avez dit qu'il veut se démarquer de son prédécesseur. Nous savons que le pasteur Ngoï Moulunda, au début de son mandat, il avait privilégié une approche qui consistait à aller rencontrer les leaders des partis politiques comme pour les rassurer. Mais cela n'a pas empêché que les résultats ne soient contestés.
Non, son prédécesseur s'est plutôt embourbé dans une polémique terrible. À l'époque, il a été question pour le parti politique de rendre, parce que le pasteur Ngoyi Mulunda nous avait également promis la transparence, et vous savez que le parti politique avait demandé une certaine transparence au niveau de la gestion du fichier électoral. Il me semble que cela n'avait pas été le cas, et je crois que c'était là le début de la rupture. Alors, par rapport à la question, à de telles questions, comment va se comporter M. Labbé Malumalu? Va-t-il aller au bout de la transparence? Est-ce qu'il va véritablement faire l'inverse de ce que le bureau précédent a fait? Donc, il est très attendu là-dessus, mais aussi, il n'est pas toujours facile, quand on a occupé un poste, de revenir. On peut peut-être faire mieux, mais on peut peut-être faire aussi le pire.
Professeur Kibam Kalala, par rapport à l'indépendance, cette capacité, selon l'abbé Apollinaire Malumalu, cette capacité d'accomplir les travaux sans influence d'une force extérieure, notamment les institutions de la République, l'opposition, la communauté internationale, déjà nous savons que la CENI est une institution qui n'a pas d'autonomie financière. Elle dépend financièrement de ses forces extérieures. Comment pourrait-elle se départir de l'influence de ces forces qui la financent?
Oui, monsieur Guimaté, j'aimerais donner quelques précisions. On ne peut pas dire que CENI égale Malumalu, Malumalu égale CENI. Donc on ne peut pas réduire la commission électorale indépendante à la personne
d'Abbé
Malumalu. Je ne pense pas que Malumalu soit un dictateur qui va décider de tout et de rien au sein de la CENI. Ce n'est pas Malumalu qui va organiser les élections. Je rappelle aux auditeurs de Radio Capi que la CENI a une structure tripartite. Il y a l'opposition qui est là-dedans. Il y a la majorité, il y a la société civile. Les décisions vont se prendre dans le cadre d'une concertation interne. Je pense qu'ils auront un règlement intérieur qui va définir les modalités de fonctionnement de la CENI. Et donc Malumalu ne va pas décider seul de tout et de rien. Ce n'est pas lui qui va organiser les élections. Les élections, Guimaté, ce ne sont pas les élections d'Abbé Malumalu. Ce ne sont pas les élections de la CENI. Ce sont les élections du peuple congolais. Et donc, c'est le peuple congolais qui doit se prendre en charge, s'approprier tout le processus électoral du début à la fin. La CENI n'est qu'un pouvoir organisateur. Et donc, on ne peut pas dire que c'est Malumalu seul ou la CENI seule qui va assurer la transparence.
Mais s'il y a des imperfections, c'est lui qui doit endosser parce qu'il est le président de l'institution.
Justement, non, mais c'est la CENI qui va... Évidemment, il est le numéro un, on comprend bien, en tant que le chef des troupes, mais ça va. Mais nous devons appuyer la CENI, parce que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est ça sa définition constitutionnelle. Et donc, c'est notre démocratie. Nous devons appuyer la CENI. Dans la vigilance, il faut contrôler. Comme nous avons dit tout à l'heure, on ne va pas donner à la CENI carte blanche parce qu'il y a NAB qui est à la tête de la CENI, donc c'est carte blanche. Nous devons être vigilants, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, pour que la CENI travaille dans des bonnes conditions. Pas ce sont nos élections à nous. Maintenant, vous posez le problème de l'indépendance. Guimaté, l'indépendance, c'est un état d'esprit. C'est un problème de culture personnelle. C'est un problème de caractère personnel. C'est un problème de personnalité. Oui. Eh bien, vous pouvez mettre sur papier, assurer l'indépendance, sur papier, tout ce que vous voulez, c'est beau tout ça. Eh bien. Mais le problème, c'est le comportement des individus eux-mêmes. Un problème d'état d'esprit et de culture. Et donc, ce que nous demandons aux membres de la CENI, ils sont 13, eh bien, que ces personnes, même si elles ont été désignées par les partis politiques ou par leurs composants de base, eh bien, une fois devenus membres de la CENI, c'est eux-mêmes qui doivent assurer l'indépendance de l'institution. C'est pas ce papier. Et donc, si vous avez des gens qui sont faibles de caractère, qui vont accepter n'importe quelle injonction, eh bien, nous n'aurons pas une CENI indépendante. Donc, c'est un problème de personnalité, c'est un problème de caractère. Vous parlez de l'argent, mais bien entendu, le gouvernement se limite à donner de l'argent à la CENI. Il y aura aussi la communauté internationale, si jamais on arrivait à avoir quelques dons de ce côté-là, eh bien, mais ce n'est pas cela qui va porter atteinte à l'indépendance de l'institution. L'indépendance de la CENI, c'est dans son fonctionnement, dans sa prise de décision. Et surtout, lors des organisations des élections, comme Malumalu l'a dit, eh bien, qu'il y ait l'impartialité, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait l'honnêteté.
Merci.
Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet.
Merci. Nous passons à la question principale du débat de ce soir. Que faire pour harmoniser les cycles électoraux en République démocratique du Congo? Nous commençons avec vous, le professeur Tshibangu Kalala. D'abord, comment en est-on arrivé là? Vous avez aujourd'hui des institutions issues des élections 2006, mais qui continuent à fonctionner en 2013.
Oui, c'est vrai. il y a eu un dysfonctionnement qui est réel. En 2016, justement avec Abbé Marmalou, on avait bien commencé.
En 2006.
En 2006, nous avions bien commencé, également. Donc nous avions des institutions centrales, le président de la République et le Parlement, Sénat, Assemblée nationale, qui ont démarré presque au même moment. Il y a un petit décalage de quelques mois, 3-4 mois, c'est pas grave. Les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, même chose, presque au même moment. Et donc, toutes ces institutions, qui étaient issues des élections de 2006, arrivaient à la fin de leur mandat en 2016. Mais il y a eu un dysfonctionnement qui fait que, pour le président de la République et l'Assemblée nationale, la question a été réglée en 2011, mais nous avons le Sénat qui est toujours là, qui dépend des élections provinciales, qui ne sont pas organisées. Nous avons les gouverneurs de province et les gouvernements provinciaux qui sont toujours là, bien, 2006, qui dépendent eux aussi de l'élection provinciale. Donc, il y a priorité absolue d'organiser des élections provinciales. Pour moi, cette année-ci, au plus tard décembre, ou au plus tard janvier 2014. Maintenant, comment il faut régler les choses? Moi, j'ai deux solutions à proposer ce soir. Ce sont deux solutions que je présente à la société politique et à la société civile, pour lancer le débat. La première solution, ou que j'appelle le plan A, consiste à mettre les compteurs à zéro en 2016. Comme ça, en 2016, on va redémarrer comme on l'avait fait en 2006. Première solution. Deuxième solution, je vais l'aborder après.
Cela veut dire que le Sénat ainsi que les institutions provinciales continuent à fonctionner jusqu'en 2016?
Non, parce qu'il faut organiser les élections provinciales avant. Maintenant, pour régler ce problème-là de dysfonctionnement que nous avons constaté, il faut que Abbé Malumalu et son équipe, quand ils vont organiser les prochaines élections provinciales, qu'ils nous sachent à l'avance.
Au mois de décembre ou janvier 2020.
Pour moi, novembre, décembre, on peut le faire, ou janvier plus tard. Il faut que les futurs candidats, députés provinciaux, ou sénateurs, ou gouverneurs de province, sachent à l'avance quelle est la durée de leur mandat. Et ça serait un mandat de 5 ans jusqu'en 2019 ou 18, ou la durée de mandat de leur mandat sera inférieure à 5 ans.
Et cela ne peut pas être le fait du seul Abbé Malumalu.
Ah non, c'est pas lui, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème est que la durée des mandats des sénateurs, des députés provinciaux et des gouverneurs, cette durée est fixée dans la Constitution. Ce sont les articles 74, disons 103, 105 et 197 et 198. C'est 5 ans, 5 ans. Maintenant, si nous devons mettre les compteurs à zéro en 2016, ce que je propose, c'est ceci. Ça, c'est le plan A. Puisque la durée des mandats est prévue par la Constitution, si vous touchez à cette durée, vous touchez automatiquement à la Constitution. Et donc, je propose qu'on puisse limiter la durée des mandats des sénateurs, des députés provinciaux, des gouverneurs qui seront élus à partir des élections provinciales prochaines. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la solution. Ma proposition a une colonne vertébrale. Permettez-moi de faire beaucoup de pédagogie parce que l'auditeur suit cette émission. A comme colonne vertébrale la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Donc il faut respecter la Constitution. Et donc, première solution, il faut réviser la Constitution pour respecter la Constitution, pour régler ce problème-là. Je propose qu'à la rentrée de septembre, qu'on puisse mettre sur la table du Parlement un projet de loi portant révision de la Constitution en introduisant une disposition spéciale dans la Constitution, disposition finale ou transitoire, un article qui prévoit que, par dérogation aux dispositions de la Constitution qui prévoit que la durée de mandat est de 5 ans, maintenant, pour les sénateurs, les députés provinciaux, les gouverneurs de province qui sortiront des élections prochaines, des élections provinciales, eux, ils auront une durée de mandat de 3 ans.
Merci beaucoup.
Qui va expirer avec la fin de la deuxième législature.
Merci.
Et comme ça, ils seront élus, ils vont avoir un mandat de 2 ans, disons de 3 ans, qui va expirer en 2016, au même moment, avec l'expiration du mandat du président de la République et de l'Assemblée nationale actuelle. Et en ce moment-là, on remet les compteurs à zéro en 2016.
Merci, professeur Tshibankalala. Honorable Albert Fabrice Pouela, votre réaction par rapport à la proposition de professeur Tshibankalala qui propose de remettre les compteurs à zéro en 2016, en réduisant le mandat des institutions qui seront issues des prochaines élections provinciales.
Non, pas du tout. Je m'inscris en faux à cette proposition. J'ai une autre. Nous avons une autre en ce qui nous concerne parce que nous avons un sérieux problème de légitimité dans notre pays. Il y a un problème du consensus national qu'il faut reconstruire, qui n'existe pas. Nous avons une crise multiforme qui requiert une solution politique d'ensemble. Et cette solution, ou mieux, ces solutions appropriées, doivent être trouvées à tous les problèmes lors du dialogue inclusif que nous réclamons suivant le point 14B de la résolution 2098 du Conseil de sécurité et non les concertations nationales formant M. Kabila que nous rejetons sur toute sa ligne. Nous pensons que cela étant, lorsque nous allons tous nous rendre compte que, effectivement, et je suis très content que mes deux collaborateurs, mes deux co-débatteurs soient revenus sur ça, le professeur Kabamba a dit que Ngoï Moulunda s'est empêtré dans la boue, un peu là. Alors, nous avons, excusez-moi d'être un peu, excusez-moi l'expression, nous avons un monsieur, membre de notre famille soit-il, mais qui est venu, qui a déposé ses excréments sur la table, nous les chassons de notre maison, mais nous laissons les excréments sur la table. Qu'est-ce que nous aurons fait? Et nous allons tous être d'accord de manger, de consommer les excréments? Ah non! Puisque l'abbé, excusez-moi, monsieur Ngoï Moulunda, tous nous sommes unanimes qu'il a très mal organisé les élections, il doit partir. Mais que faisons-nous justement des résultats de ces élections biaisées? À mon sens, nous devons, et il est temps qu'on se le dise, enfin je suis député national, nous devons tous, nous tous qui avons bénéficié des mandats de cette œuvre biaisée, nous devons remettre nos mandats à la population souveraine, que ce soit M. Kabila ou nous les députés nationaux, pour qu'on réorganise. Et à ce moment, il faut commencer par les débuts. Parce que lorsque M. Malumalu parle d'indépendance...
Et là vous pensez que ça peut se faire à quel moment? Immédiatement ou il faut attendre 2016?
Non, on ne peut pas attendre 2016. Le plus tôt possible. Parce qu'il y a une vraie crise.
Là, vous rejoignez la proposition de l'honorable Moïse Nyarugabo qui avait proposé, n'est-ce pas, que l'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale
et
que l'on puisse reprendre les tout à zéro.
Pas seulement l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que nous allons dire de M. Kabila, mais lui aussi, autant qu'on aille maintenant avec un second tour et qu'on organise justement ce second tour dont on a privé aux Congolais et que nous, les députés nationaux, que nous remettions nos mandats, qu'on dissolve effectivement l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci, parce que moi, je mets en doute l'impartialité, la transparence et l'indépendance de l'abbé de M. Malumalu. Parce que c'est celui-là, quand on dit on ne fait pas un débat de personnes, non, l'abbé Malumalu, c'est pas la CENI. J'en conviens. Mais on oublie ici, j'aimerais que les professeurs se souviennent, que c'est ce même abbé qui est venu d'ailleurs de Sand City, qui a organisé les débuts. Il devait commencer par un recensement. Il ne l'a pas fait. On ne construit pas en commençant par forcément par la toiture sans mettre des pylônes et qu'on sort. C'est la fondation. Et la fondation, c'est quoi? Ce sont des élections locales. Jusqu'aujourd'hui, on ne les a jamais organisées. Le professeur a parlé de toutes les institutions qui étaient mises en place. Mais qu'est-ce que nous faisons des institutions locales, au niveau municipal et consorts? Non, mais c'est une étape, on oublie toujours. Nous nous servons, nous qui sommes au-dessus, et nous oublions alors que toute la base du fonctionnement de la société devait partir par là. Et M. Malumalu, ayant échoué à ce niveau-là, tout le monde, même les enfants, savent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais celui-là qui a échoué, qui a mal organisé les élections en 2006, nous les ramenons. Ça veut dire quoi? Qu'on gouverne par défi, on impose les gens suivant son obédience. Et nous pensons qu'il faut remettre les compteurs à zéro. Député national que je suis, je me dis il faut dissoudre pour que nous harmonisions en commençant par un recensement, nous allons aux élections locales, mais pas avec l'abbé Malumalu, parce que nous disons avec le dialogue inclusif qui doit être organisé. Moi, je viens du Bas-Congo, j'ai eu un meeting à Matadi et à Boma, la population unanime. Avec l'abbé Malumalu, nous n'allons pas aux élections. Imaginez qu'on en arrive là.
Honorable,
oui,
nous allons prendre cette question qui vient de Kinshasa pour vous.
Timothée Moudi Labouamba, à partir de la commune de Kitambo à Kinshasa. Il est impossible que le cycle électoral devienne régulier parce que c'est à cause de Monsieur le Président l'abbé Malou Malou en 2006 qui avait commencé par les élections au sommet au lieu de débuter par la base. Et le pasteur Gouyi Mulunda qui est venu après lui a suivi le même pas en commençant toujours par le sommet au lieu de la base. Alors il est impossible que ce cycle soit régulier, même par magie.
Il vous rejoint, il vous a rejoint, et je suis sur le fait qu'il faut commencer par les locales.
C'est une logique élémentaire. Je pense que pour gravir une montagne, on commence par les bas, on n'inverse pas. C'est normal, nous ne sommes pas concertés, il m'a rejoint. Donc nous devons être conséquents nous-mêmes à l'Assemblée nationale. Au début de cette législature, nous avons dit qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui on ne sache pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Il n'y a pas de carte pour citoyens et nous ne savons pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Il faut recenser la population, il faut commencer par les élections locales et puis monter jusqu'à arriver au niveau des présidentielles. Et cela suppose justement, parce que figurez-vous, aujourd'hui nous avons un Parlement avec une Assemblée nationale élue en 2011. Mais le Sénat, parlons-en. Le Sénat aujourd'hui est même en total déphasage, en crise de légitimité par rapport à l'article 227. L'article 227 qui dit quoi? Les provinces telles qu'énumérées par l'article 2 de la présente Constitution constituent les circonscriptions électorales des sénateurs de la première législature. Mais ces provinces telles que énumérées. Mais il y a un autre article, l'article 226, qui avait été modifié, qui avait dit qu'une loi de programmation. Donc ces sénateurs n'ont pas de base aujourd'hui.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Ici, l'enjeu, c'est de répartir sur des nouvelles bases et veiller à ce que les cycles électoraux soient respectés. Vous pensez que c'est possible dans les contextes congolais?
Oui, mais je crois qu'il faut aussi tenir compte du changement intervenu au niveau du bureau de la CENI. Ce changement est dû, entre autres, au fait qu'on a assisté à une organisation des élections qui était totalement bâclée et que donc il faut faire les choses autrement. Faire les choses autrement, c'est essayer de voir qu'est-ce qui n'avait pas marché dans le bureau passé, pourquoi les élections n'avaient pas été organisées d'une façon souhaitable par toute la population. Et je crois que là, vous avez déjà un début de réponse avec les éléments d'analyse faits par le bureau passé. Le bureau passé lui-même a reconnu qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour organiser les élections. Il a été mis en place de manière très rapide et on lui a donné un calendrier où il s'est taillé un calendrier en fonction de cette exigence. Et maintenant qu'on vient de mettre un bureau en place, il faudra certainement que le bureau en place tienne compte de cette donnée-là. Il a besoin d'organiser donc des élections dans un pays aussi vaste que la RDC, qui n'a pas d'infrastructure, qui a trop de problèmes, nécessite un temps, aussi bien pour l'organisation des activités préélectorales, électorales et post-électorales. Et c'est là qu'on doit avoir un calendrier électoral qui tient compte de tous ces aspects. Parce que ce calendrier va aider à gérer les activités de planification, à gérer les activités de préparation, de façon à respecter toutes les dates limites réglementaires administratives qui seront fixées. Et moi, je crois que là-dessus, la question ne se posera pas. Il faut donner certainement suffisamment de temps au bureau qui est en place pour mieux organiser les élections. Il faut absolument éviter le piège du passé, c'est-à-dire parce qu'il y a un délai. Et le délai d'alors, c'était quoi? C'était qu'il y avait, évidemment, le chef de l'État dont le mandat allait arriver à expiration. Il fallait absolument organiser les élections dans ce délai-là. Pour le moment, je crois qu'il faut donner suffisamment de temps au bureau en place afin qu'il se dote d'un calendrier réaliste, un calendrier qui peut lui permettre de bien planifier.
Professeur.
Mais je crois qu'il y a également une proposition qui a été mise par celui qui a parlé tout à l'heure, l'auditeur. Une proposition très intéressante qui consisterait à partir de bas en haut. Et donc, organiser d'abord des élections. D'abord, donner le temps au bureau, organiser les élections au niveau local et progressivement monter jusqu'au niveau national. Probablement que ce nouveau calendrier pourra déboucher sur une reconfiguration des nouveaux cycles. Et ça, c'est aussi une piste qu'on peut creuser. Parce qu'en fait, pour organiser les élections au niveau local, je vous assure que les opérations seront aussi minutieuse, aussi délicate qu'au niveau national. Et c'est une piste qu'on peut également explorer.
Professeur.
Mais je crois que la piste évoquée également par le professeur, il faut la creuser, il faut analyser,
oui,
et voir dans quelle mesure tout ce qu'il a préconisé, parce qu'il a préconisé de voir, dans quelle mesure cela peut également être appliqué. Dans tous les cas, je crois qu'il y a là un sujet à débat, étant donné qu'il y a des propositions qui peuvent être mises sur la table et qu'il faut analyser avec beaucoup de minutie.
Et vous, comment vous analysez, n'est-ce pas, les propositions, celles du professeur Chibam Kalala qui pense qu'il faut remettre les compteurs à zéro en 2016 et réduire les mandats des institutions qui seront issues des élections qui seront organisées prochainement, les élections provinciales, et l'honorable Fabrice Puella qui pense qu'il faut immédiatement remettre les compteurs à zéro et organiser des élections générales?
Oui, c'est-à-dire remettre le compteur à zéro, c'est en quelle année? C'est l'année prochaine déjà ou cette année? Ça pose tout le problème que j'ai évoqué. Un problème de préparation des élections. Et moi je me dis, une élection dans le contexte actuel a besoin de suffisamment de temps pour être organisée. Si vous organisez des élections dans la hâte, vous allez connaître le problème que le bureau passé a connu. Et ça, je vous assure, c'est un fondamental qu'il faut absolument respecter. Sinon, nous allons retomber dans les erreurs du passé et nous n'allons pas résoudre le problème. Or, le bureau actuel, on a recomposé le bureau pour éviter tout ce biais. Il faut donner suffisamment de temps à ce bureau pour que toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales se déroulent de manière convenable.
Oui, professeur Félix Kamamba, nous allons prendre cette réaction qui vient de Nyalouma Arnold pour vous.
Arnold de Nyalouma, depuis Louvain-la-Neuve en Belgique. Je constate qu'il n'est plus possible d'harmoniser les cycles, sinon cela reviendrait soit à renvoyer toutes les élections pour 2016, ce qui entérinerait ainsi l'illégitimité des institutions, soit proroger le mandat du chef de l'État et de l'Assemblée nationale pour le faire coïncider avec ceux des sénateurs et des députés à élire, ce qui provoquerait une grave crise, soit encore réduire le mandat de ceux qui seront élus et revenir aux urnes en 2016, qui également n'est pas possible. Par ailleurs, je trouve qu'il n'y a aucune nécessité d'harmoniser les cycles, puisqu'en fait, le décalage constitue un gage de démocratie. En sachant que les prochaines échéances arrivent dans 2 ou 3 ans, la majorité au pouvoir s'efforce de gagner la confiance du peuple par des actions positives.
Oui, le décalage constitue un gage de démocratie parce que les élus se sentiront dans l'obligation de se conduire positivement parce qu'ils savent qu'après une ou des années, il y aura de nouvelles élections. Donc pour lui, ce décalage-là constitue un gage de démocratie.
Oui, bon, disons qu'il a une opinion qu'il a exprimée, mais je crois que dans ce qu'il a dit, il a à un certain moment rejoint la proposition du professeur Tshibangu, qui préconisait de limiter le mandat. Eh bien, c'est aussi une proposition qu'il faut creuser. En tout état de cause, je crois que fondamentalement, il faut qu'on sache pourquoi on a un nouveau bureau et pourquoi nous devons tout de suite, par exemple, si nous acceptons la proposition du député, de l'honorable Puella, à partir de quel moment on peut organiser des nouvelles élections? Et ces nouvelles élections, quels sont les gages qu'elles seront bien organisées? Je crois que, fondamentalement, toutes ces propositions sont acceptables, on peut les mettre sur la table et analyser les pour et les contre. Mais je ne suis pas tout à fait satisfait de la proposition d'organiser très rapidement ces élections, parce que toute précipitation dans l'organisation électorale a généralement beaucoup de dégâts au niveau, évidemment, de la contestation politique.
Professeur Chibam Kalala, le décalage constitue un gage de démocratie?
Non, c'est pas dit. Je crois que peut-être l'auditeur n'a pas compris le problème dont nous discutons ce soir. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais d'abord faire une observation, position de mon collègue et ami,
Puella.
Honorable Puella. Non. Vous savez, on ne peut pas, du jour au lendemain, décider de dissoudre une Assemblée nationale. Parce que cette matière est bien encadrée par la Constitution. Je vous renvoie à l'article 148 de la Constitution, qui commence par les mots suivants. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Donc, le président de la République, parce que s'il faut dissoudre, c'est lui qui doit décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, il ne peut le faire que conformément à la Constitution. Et donc, il faut qu'il y ait une crise persistante, grave, entre l'Assemblée nationale et le Parlement. En ce moment-là, il peut dissoudre. Donc, il ne peut pas faire une dissolution de convenance. Oui, parce qu'il faut régler le problème, je vais dissoudre. On va lui reprocher d'avoir violé la Constitution de manière intentionnelle. Et puis, il y a des conséquences. S'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, d'abord, c'est pas possible, parce qu'il faut qu'il y ait une crise, et organiser les élections. Mais ça va générer un coût financier énorme. Nous n'avons pas l'argent, professeur Kabamba, pour organiser les élections locales. On n'a pas l'argent pour organiser les élections provinciales. Mais s'il faut encore ajouter des élections législatives, parce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale de manière prématurée, ça fait encore un coût financier supplémentaire. Et puis, on ne peut pas écourter de manière irresponsable la durée de mandat des députés qui sont élus pour 5 ans. Il y aura des mécontentements, il y aura des vagues dans cette politique. Mais ça,
mais vous, proposez qu'on puisse écourter les mandats,
oui,
des,
mais
des institutions
de quoi s'agit-il
des prochaines élections.
Mais bien sûr, parce que quand vous allez aux élections comme sénateur, comme candidat sénateur, ou gouverneur, ou député provincial, vous savez à l'avance que selon la Constitution, mon mandat n'est pas de 5 ans, mon mandat est de 3 ans. Il va expirer en 2016, vous le savez. Et donc, si vous n'êtes pas, vous voulez avoir un mandat de 5 ans, vous allez attendre 2021 ou 2019, peu importe. Mais pour les prochaines élections, vous voulez être député provincial, gouverneur, vous voulez être sénateur, c'est 3 ans, c'est mis dans la Constitution. C'est une dérogation spéciale. Eh bien, vous savez, je vous dis, aux États-Unis, les députés ont un mandat de 2 ans. Vous savez, les députés américains, c'est 2 ans. C'est pas 5 ans, c'est pas 4 ans, c'est 2 ans. Tous les 2 ans, on fait les élections aux États-Unis. Et donc, ici, si vous savez à l'avance qu'on a révisé la Constitution, on a mis une dérogation spéciale dans une disposition transitoire ou spéciale pour dire que les sénateurs de la deuxième législature, les députés provinciaux de la deuxième législature et le gouvernement provincial, ces gens-là, ils ont un mandat, non pas de 5 ans, mais de 3 ans, parce que la Constitution le prévoit. On remet le compteur à zéro en 2016. L'affaire est réglée.
Honorable Président,
bon, c'est lui qui dit que c'est difficile, c'est impossible. Ce n'est pas impossible, parce qu'on peut réviser la Constitution pour une question purement technique, j'insiste, Guimaté, c'est pour régler un problème purement technique qui ne divise personne.
Merci.
Et qui ne porte pas atteinte aux intérêts de telle famille politique ou de telle famille politique.
Porteur.
C'est un problème national qu'il faut régler parce qu'il faut régulariser nos cycles électoraux.
Merci.
Je pense que c'est une solution qu'on peut mettre sur la table et l'approfondir et discuter. Voilà,
Honorable Pouela, il faut commencer d'abord par réviser la Constitution avant que votre démarche ne puisse aboutir. Celle qui consiste à dissoudre l'Assemblée nationale maintenant et remettre les compteurs à zéro immédiatement.
Oui, nous avons évolué par hypothèse. Pour autant que M. Kabila ne s'est représenté, ce qui est d'ailleurs normal, il ne doit pas se représenter en 2016, que nous ayons des élections pour harmoniser, ne fût-ce qu'au niveau des élections des législatives provinciales et sénatoriales, tant mieux. Mais que dire, jusque-là, on ne parle pas des élections locales, parce que là aussi c'est important. Nous ne devons pas oublier aujourd'hui que la petite territoriale n'est occupée que par la famille, par la majorité présidentielle, ce qui est anormal. Toutes ces autorités, lorsque membres de l'opposition, je venais de tenir un meeting, on nous a refusé par un bourgmestre d'organiser un meeting, par exemple, prenons devant une commune dans la ville de Boma, ce qui est anormal, alors que nous sommes des autorités, des officiels.
Merci.
C'est pas normal. Donc, c'est là, en notre sens, nous devons nous rencontrer dans le cadre du dialogue inclusif tel que voulu par la communauté internationale pour que nous posions tous ces problèmes, que nous réfléchissons tous ensemble.
Merci, nous
arrivons
à la fin de l'émission. Professeur Félicien Kabamba, votre conclusion?
Oui, une petite conclusion, c'est que c'est bien de réviser la Constitution, mais il devient dangereux de la réviser chaque fois qu'on parlera d'élections. On l'a révisée avant les élections de 2011, et donc maintenant il faudra probablement la réviser pour la question électorale. Donc tout le débat est lancé, mais il sera très très dangereux chaque fois de réviser la Constitution quand on annonce les élections.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.